Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Fressaud, qui est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il est directeur de recherche au CNRS, il enseigne à l'École nationale des ponts et chaussées, il est chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous connaissons au moins un de ses collègues qui est venu faire des conférences ici, Thomas Leroux. Les recherches de Jean-Baptiste Fressaud portent sur l'histoire environnementale, l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'action humaine, et la transition énergétique. Alors, vous aurez compris que ce monsieur est historien, mais il a des compétences nécessaires en physique, en chimie, en physico-chimie, en biologie, en médecine. Mais ce que je peux dire, c'est que ces ouvrages sont complètement lisibles par quelqu'un de normalement constitué, quoi. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence, mais ce qui m'a intéressé au début et ce qui m'intéresse toujours, dans votre approche et de vos collègues, parce que vous avez écrit même un livre, vous êtes en train d'écrire un ouvrage à plusieurs, moi, ce qui m'intéresse, ça peut se résumer en quelques termes, transformation, changement, mais transformation et changement, ou même remplacement, il peut y avoir une transformation, mais ce n'est pas celle qu'on avait attendue. Alors, il y a plusieurs exemples. Moi, il y en a un qui m'intéresse beaucoup. C'est relativement à la naissance du machinisme et du capitalisme. C'est toute l'histoire à la fois de la chimie, je pense à Lavoisier, et puis de ce que des gens comme Chaptal ont fait en utilisant les découvertes de Lavoisier, donc l'époque de la Révolution, et qui étaient des entrepreneurs, puis qui sont devenus même des dirigeants nationaux, des ministres. Si je prends un exemple, dans l'Ancien Régime, quand il y avait une industrie qui polluait et qui gênait les riverains, ou qui vraiment, ça peut même des maladies, à l'époque, c'était la police qui gérait les conflits entre l'industriel et ceux qui en souffraient. La Révolution et l'Empire arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est formidable, on va faire des lois. Mais qui fait les lois? Il y a même un décret, le décret de 1810. C'est tout à fait le début du capitalisme avec les lois qui, finalement, favorisent les industriels pollueurs. Ils financent pour dédommager. Vous voyez, donc, ces transformations, moi, c'est ça qui m'intéresse dans votre travail, c'est ça qui me passionne. Et ce soir, vous allez nous parler de remplacements qui ne sont que des transformations. Alors bon, Jean-Baptiste Fressaud a publié plusieurs livres. L'Apocalypse joyeuse, qui est une histoire du risque technologique. En collaboration, il a écrit une introduction à l'histoire environnementale. Avec un monsieur qui s'appelle Fabien Locher, il a écrit une histoire du changement climatique du 15e au 20e siècle, qui s'appelle « Les révoltes du ciel », bon, et puis « Sans transition », dont il va nous parler ce soir. Alors, donc, comme je l'ai dit, il fait partie d'un groupe d'historiens qui travaillent dans le même sens, et ils ont publié l'an dernier le premier volume d'un ouvrage intitulé « La nature en révolution ».
Merci Léon, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ce à quoi vous faisiez référence, c'était plutôt dans le premier livre que j'avais écrit, « L'Apocalypse joyeuse », où effectivement je m'étais intéressé à une sorte de paradoxe, c'est qu'on a transformé l'environnement, on s'est industrialisé, avec tout le cortège normal de pollution qui avait avec l'industrialisation, alors même que il y avait déjà, j'ai envie de dire plus que maintenant, des préoccupations environnementales. Pour une raison assez simple, c'est que l'environnement fin 18e, début 19e siècle, la période que j'avais étudiée dans ce livre, c'était une notion centrale en médecine. Si on tombait tous malades à un endroit, c'est pas que on s'était refilé un microbe, on connaissait pas encore les microbes, c'est qu'il y avait une transformation environnementale. La notion que les médecins employaient couramment, c'est celle de choses environnantes. Et c'était pas que les médecins, c'est-à-dire les habitants des villes qui râlaient contre leurs voisins industriels pouvaient employer aussi cette expression de choses environnantes et expliquer que toutes les maladies qu'ils avaient depuis quelques années, c'était à cause de tel artisan qui émettait telle fumée qui sentait mauvais. Et comme vous le rappeliez, effectivement, la police avait un rôle important parce que c'était elle qui arbitrait un peu ces conflits. Et quand un artisan était vraiment trop nocif, on disait, tu dégages, en gros. Donc la régulation, c'était il faut aller ailleurs, plus loin. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du 19e siècle, il y a des dispositifs qui sont évidemment polluants, en particulier autour de la chimie industrielle, qui demandent beaucoup de capitaux, et évidemment, ce type de régulation, c'est pas adapté. Parce que vous pouvez pas investir des millions dans une usine chimique si quelques mois après, le policier vous dit désolé, il faut aller voir ailleurs, c'est trop polluant. Donc il fallait effectivement stabiliser, si vous voulez, le droit d'exercice des industriels, et c'est ce fameux décret de 1810, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et Thomas Leroux aussi, qui en fait consistait à dire l'industriel demande une autorisation auprès du préfet, voire du Conseil d'État pour les choses les plus polluantes, et en échange, une fois qu'il est autorisé, il pouvait polluer tout ce qu'il voulait. Et le seul recours des voisins, c'était de demander des compensations financières auprès des tribunaux civils. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir en fait comment on s'est industrialisé, alors même qu'il y avait des plaintes, des protestations, comment ça se passe, quoi, ce genre de phénomène. Et j'avais employé le terme de désinhibition. On se désinhibe pour passer outre en fait ces craintes environnementales. Un processus de désinhibition important, c'est au début du 19e siècle, dans les années 1830, des médecins parisiens qui travaillent dans ce qu'on appelle le Conseil de salubrité de Paris, qui était un petit organe placé auprès du préfet, justement pour organiser les autorisations administratives des industriels au sein de ce comité, des chimistes et aussi des médecins commencent à expliquer qu'en fait l'environnement c'est pas si important que ça. Que ce qui est vraiment important c'est la richesse. Plus vous êtes riche, plus vous avez une longue espérance de vie. Et donc ça veut dire que l'industrialisation, peut-être que ça sent mauvais, mais à terme ça fera un peuple plus riche et donc un peuple en meilleure santé qui vivra plus longtemps. Et donc c'est vraiment ce genre de processus historique qui m'ont intéressé et que j'avais appelé des désinhibitions, comment on passe outre la conscience environnementale. Donc, vous voyez, l'histoire de l'environnement, c'était pas l'histoire de on bousille l'environnement sans trop s'en rendre compte, et puis maintenant on se dit « ah mince, on a peut-être fait des bêtises ». C'est pas ça l'histoire, en fait. C'est qu'on savait très bien qu'il y avait des choses problématiques, et on arrive à passer outre pour encourager l'industrialisation, le développement économique, etc. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un phénomène assez similaire de désinhibition qui a eu lieu sur le changement climatique depuis au moins les années 1970. Cette désinhibition, elle tourne d'une notion qui a à voir avec les notions dont parlait Léon, changement, transformation, qui est celle de transition énergétique. Ce terme-là, je pense que vous l'avez tous entendu maintes et maintes fois, on a un problème de changement climatique, les énergies fossiles réchauffent le climat, qu'à cela ne tienne, il faut faire une transition énergétique. Ce qui m'a particulièrement intéressé en tant qu'historien, c'est que souvent quand on se réfère à la transition énergétique, on se réfère aussi à l'histoire. Avec l'idée qu'on a déjà fait des transitions énergétiques, on est passé du bois et de l'hydraulique à la société industrielle qui reposait sur le charbon pendant au cours du 19e siècle, et puis au 20e siècle, on a fait une grande transition du charbon au pétrole, et maintenant, face au changement climatique, eh ben, il nous suffit de faire une transition vers les renouvelables ou vers le nucléaire. Donc ça, c'est vraiment le schéma qu'on a tous en tête, et surtout nos décideurs ont en tête. On le voit très bien dans toute une série de discours qui comparent la transition énergétique qu'il faut faire, la sortie des fossiles à la première révolution industrielle. Vous prenez Agnès Pannier-Runacher, dans Le Monde, elle expliquait que la transition énergétique, c'est une transformation d'ampleur comparable à la révolution industrielle. John Kerry, qui était l'envoyé américain sur le climat, candidat malheureux à la présidence américaine, contre Bush, disait la transition énergétique, c'est une nouvelle révolution industrielle. Donc il y a vraiment cette idée que la révolution industrielle, c'est une forme de transition énergétique, et maintenant il faut faire une sorte de nouvelle révolution industrielle, mais verte, durable, fondée sur les renouvelables. Alors, cette histoire, elle est fausse, mais ce qui est bizarre, c'est que les experts reprennent ce genre d'histoire. Je vais parler beaucoup d'un groupe du GIEC. Le GIEC, vous savez tout ce que c'est ? Groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui est fondé en 1988. Au sein du GIEC, il y a trois groupes. Le groupe 1 s'occupe de climat, climatologie. Le groupe 2 s'occupe des impacts du changement climatique, et le groupe 3 s'occupe de qu'est-ce qu'il faut faire, de la transition. Et dans ces rapports, il y a plein de références, enfin, il y a peu de références à l'histoire, mais quand il y a des références à l'histoire, c'est très bizarre. Vous voyez ce genre de phrase, les transitions énergétiques peuvent avoir lieu plus vite que par le passé. Ou bien la transition énergétique doit avoir lieu plus vite que les transitions du passé. Alors, ces transitions du passé, ça je pense que vous savez tous dans cette salle, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Je pense que vous savez qu'on n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. Chaque année, on espère passer le pic du charbon, et puis chaque année, c'est repoussé un petit peu plus tard. La consommation de pétrole, elle continue de croître. Elle va peut-être baisser en 2026 avec les événements, évidemment, dans le détroit d'Hormuz. La consommation de gaz continue de croître. De manière peut-être plus surprenante, c'est moins connu, la consommation de bois a énormément cru, enfin au XXe siècle, et elle continue de croître de nos jours. De nos jours, le bois énergie, ça représente deux fois le nucléaire. Vous voyez, on est obsédé par les technologies nouvelles, par les innovations, en fait on vit avec des sources d'énergie anciennes, ce qui rend évidemment cette idée de transition énergétique du passé assez étrange. Alors le point de base, s'il y avait un point à retenir de l'histoire de l'énergie et de la matière, c'est que, à la différence des technologies, les matières et les énergies, historiquement, pour l'instant, ne sont jamais obsolètes. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut retenir, c'est que cette idée de transition énergétique, pourquoi les experts parlent des transitions du passé, c'est parce que sciemment, ou inconsciemment, je ne sais pas, ils confondent les dynamiques technologiques, les transformations technologiques, les changements technologiques, avec les dynamiques énergétiques et matérielles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des technologies deviennent obsolètes. Je pense que vous avez tous en tête des technologies qui deviennent obsolètes. Je sais pas, les cabines téléphoniques, par exemple, à Paris, sont devenues complètement obsolètes, parce que maintenant, il y a ce genre d'objet-là. Mais les matières, elles, ne sont pas obsolètes. Ce que je veux dire par là, c'est que, si vous prenez l'histoire des matières premières, quasiment toutes ne font que croître. Bah, vu qu'on n'est pas nombreux, je vais vous faire un petit quiz. Est-ce que vous pouvez me donner des noms de matières premières dont la consommation a décru? Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc c'est assez facile. Il y en a une qui est très célèbre, les autres le sont moins.
L'huile de baleine.
Voilà, l'huile de baleine, c'est l'exemple le plus fameux. Alors, qui est intéressant, à votre avis, ça a décru quand, l'huile de baleine?
Ouais.
En fait, le pic de la consommation d'huile de baleine, c'est les années 70. C'est quand on a interdit l'huile de baleine. Donc, c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un truc qui marche. Si vous voulez vraiment réduire la consommation d'huile de baleine, il faut interdire, enfin, de n'importe quelle matière, il faut interdire. Parce qu'en fait, on croit tous que le pétrole rend obsolète l'huile de baleine. C'est l'histoire classique, parce qu'on s'éclairait à l'huile de baleine. Alors, c'est pas vrai, on s'éclairait pas à l'huile de baleine. On s'éclairait à l'huile de colza et au gaz d'éclairage, et surtout à l'huile de colza ou aux graisses animales, d'ailleurs, pour faire des bougies. Mais certainement pas à l'huile de baleine, qui était déjà obsolète, en fait, dans les années 1850. En vérité, on faisait des très bonnes bougies à partir de graisses animales grâce à la chimie moderne du 19e siècle. Donc, l'historiette que, en fait, a propagé l'industrie pétrolière, c'est que c'est le pétrole qui a sauvé les baleines. Alors que nenni, le pétrole a encouragé la chasse à la baleine. Pourquoi? Premièrement, grâce au pétrole, vous avez des moteurs diesel qui permettent d'avoir des bateaux beaucoup plus puissants qui peuvent aller chasser les baleines au fin fond de l'Atlantique Sud. Et puis au XXe siècle, il y a plein d'innovations, genre le harpon pneumatique qui rend la chasse à la baleine beaucoup moins dangereuse que à l'époque de Moby Dick. Et puis surtout, en fait, l'huile de baleine, elle a plein d'autres usages que l'éclairage. Elle sert à faire de la margarine, 19e siècle et 20e siècle, et surtout, elle sert à graisser les mécanismes, et en particulier à graisser quoi? Les boîtes à vitesse des voitures et les moteurs des avions. Donc en fait, les dernières gouttes d'huile de baleine ont sans doute été utilisées dans des moteurs d'avions. Vous voyez, en fait, le pétrole a à la fois facilité la chasse à la baleine et suscité un débouché pour l'huile de baleine. Donc s'il y a un truc qui a sauvé la baleine, c'est un Greenpeace, les mobilisations environnementalistes contre la chasse à la baleine, l'interdiction ensuite de la chasse à la baleine, et puis un arbre qui s'appelle le jojoba, qui est originaire du Mexique, qui a été cultivé de manière industrielle en Israël à partir des années 60-70, et qui produit une substance grasse qui ressemble beaucoup à l'huile de baleine. Alors l'huile de baleine, c'était un exemple, un autre exemple peut-être de matière dont la consommation a diminué. Le fait que vous ayez du mal, c'est intéressant, parce que ça montre bien que vous avez en tête que tout ne fait que croître, quoi, globalement. Il y a une matière qui est diminuée, sous phénomène, c'est la seule, sous phénomène d'une forme d'obsolescence, pas disparu, hein, diminué, c'est la laine de mouton, qui a diminué à cause des fibres synthétiques. Ça a diminué d'un tiers depuis les années 90. Et il y a deux autres matières qui ont vraiment diminué un peu de la même manière qu'il faudrait faire diminuer le pétrole et le charbon de nos jours, c'est le mercure, parce que c'est toxique, et l'amiante, parce que c'est toxique. Et c'est les seuls exemples qu'on a. Un truc de base qu'il faut retenir, c'est que souvent quand on parle de problèmes environnementaux, on dit bon, on va innover, on va trouver des solutions technologiques. Il faut faire remarquer que le XXe siècle a été formidablement innovant. On a inventé pléthore de substances de chimie de synthèse, en fait, avec la chimie de synthèse. Il n'empêche que les matières premières naturelles et les matières premières en général ne font que croître malgré toutes ces innovations. À part quand il y a des interdictions où là, vraiment, il se passe des choses. Donc, vraiment, l'histoire des techniques, c'est pas la même chose que l'histoire de la matière.
Moi, j'ai lu votre livre.
Ah, super, d'accord.
Je me suis posé la question pour le bois.
Oui.
Typiquement, ici, on est à Paris. Ouais. Pendant longtemps, très longtemps, on s'est chauffé au bois. On s'est chauffé au bois à Paris. Maintenant, je pense que c'est interdit depuis très longtemps.
Et... Je ne crois pas que ce soit interdit vraiment.
Je croyais que
c'était interdit. En cas de pollution.
Je croyais que c'était interdit, ok.
Donc, alors, récemment alors, parce que...
Et du coup, si on prend le cas de Paris, ouais. Probablement que la consommation de bois pour le chauffage a vraiment beaucoup diminué. Donc maintenant, je reviens à votre argument. Ce que je me suis posé comme question, c'est probablement qu'au niveau mondial, la consommation de bois pour se chauffer ou pour chauffer à manger, par exemple, elle a probablement beaucoup augmenté, ouais. Parce qu'il y a des pays où c'est encore le standard, puisqu'ils n'ont pas vraiment d'autres moyens. Et donc la question que je me suis posée, c'est quand vous dites qu'il n'y a pas vraiment de transition, c'est le jeu de mots de votre titre, sans transition, est-ce que c'est pas vrai d'un point de vue global, mais que si on prend par exemple certains pays entre guillemets développés, notamment la France, moi je viens de la campagne, du Livradois-Forez, j'ai vu mes grands-parents se chauffer encore au bois, mes parents le faisaient encore, ça se fait plus trop. Voilà. Donc ma question c'est, quand vous dites qu'il n'y a pas vraiment de transition sur le bois, est-ce que ce qui est vrai au niveau mondial, c'est pas faux par exemple pour certains pays?
Alors, si vous prenez effectivement un tout petit espace, vous pouvez montrer qu'il y a plein de transitions. Si vous prenez votre cheminée qui ne fonctionne plus, vous pouvez dire il y a une transition, j'ai une chaudière à gaz, maintenant il n'y a pas de problème. Maintenant si vous prenez le monde, qui est en fait l'échelle importante pour le changement climatique, le bois a énormément cru, mais en fait, effectivement, dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays riches. Et ça, c'est moins connu. La consommation en énergie primaire de bois pour les États-Unis et pour l'Europe. Vous voyez que la courbe du haut, c'est Industrial Energy Use of Wood, usage industriel énergétique du bois pour les États-Unis. Hein. Vous voyez que ça reste la première source d'énergie renouvelable en 2024. Et ça a énormément cru par rapport à 1950, ça a plus que doublé. On est passé de 0,6 à 1,6, c'est des millions de terajoules, enfin bon, c'est des quantités d'énergie. D'accord ? Donc le bois énergie a beaucoup cru aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une grosse industrie du bois. Or, l'industrie du bois utilise souvent les résidus de sa production pour alimenter ses propres machines. Il y a un exemple que j'aime bien qui... Ça me permet directement d'entrer dans le vif du sujet, mais si on peut avoir une discussion, moi je préfère. Hein. C'est le cas de l'industrie papetière. L'industrie papetière, vous savez que sa matière première, c'est le bois. L'industrie papetière est un énorme consommateur industriel d'énergie. C'est le quatrième consommateur industriel d'énergie. En un, vous avez les sidérurgies. En deux, c'est la cimenterie. En trois, c'est les industries chimiques. Et en quatre, la papeterie. La papeterie, elle est tirée par quoi, à votre avis? Le livre. Alors, pas du tout, les livres, vraiment, c'est le truc. L'emballage, c'est un peu triste, mais ouais, non, c'est pas du tout les livres. Vous voyez que le côté un peu obsolète du livre, ce qui vraiment tire là, c'est effectivement l'emballage. Pourquoi on produit de plus en plus d'emballage? Parce qu'on a une économie qui est dopée aux industries fossiles, pétrole et gaz, qui produit de plus en plus de biens. Ces biens, il faut les emballer. Donc on produit de plus en plus de cartons. Ces cartons, ils sont produits par l'industrie papetière qui consomme du bois énergie, donc on consomme de plus en plus de bois énergie. C'est ce qu'on voit dans cette courbe là. Qui représente toutes les énergies renouvelables en Europe depuis 1990. Donc vous voyez que l'échelle des abscisses n'est pas la même, hein, faire attention, par rapport aux États-Unis. Il y a une ligne qui s'appelle Black Liquors, c'est la ligne en petit tiré comme ça. C'est les liqueurs noires de l'industrie papetière. C'est à peine en ce moment que le solaire est en train de dépasser les liqueurs noires de l'industrie papetière. Personne n'a jamais entendu parler des liqueurs noires de l'industrie papetière. C'est les résidus de... En gros, dans le bois, vous avez de la cellulose et de la lignine. La cellulose, c'est la matière dure, c'est les fibres, c'est ça qui fait vraiment le papier. Et la lignine, avant, on balançait ça dans les rivières. C'est très polluant. Et puis, avec l'augmentation du coût de l'énergie, en particulier après les chocs pétroliers, les industriels du papier vont recycler cette lignine pour alimenter leur propre dispositif. Et donc, ils utilisent de plus en plus de bois énergie. D'accord ? Alors après, il y a d'autres exemples bizarres, mais vu que... Ah, je ne l'ai pas mis cette fois. Si, celle-là, elle est amusante. On produit aussi de plus en plus d'électricité à partir de bois. Alors, pas en France, parce qu'il y a du nucléaire, mais dans d'autres pays. Hein. Je vais prendre un exemple, c'est le cas de l'Angleterre. Ce n'est pas le seul, le Japon se met à faire ça aussi maintenant. En Angleterre, il y a une centrale thermique qui s'appelle Drax, qui se trouve près de Leeds, hein, qui est une centrale qui a été inaugurée en 1972 pour brûler du charbon. Dans les années 2000, elle est reconvertie à la biomasse. Alors, biomasse, en fait, c'est un mot de code pour dire du bois. L'excuse, c'est hein, on va brûler seulement les résidus, les sciures, toutes ces choses-là. Bon, en vérité, il n'y a pas du tout assez de sciures pour alimenter une grosse usine thermique comme Drax. Drax, chaque année, consomme 8 à 10 millions de tonnes de granules de bois. C'est du bois qui est importé des États-Unis et du Canada, principalement. Alors, faut savoir que l'Angleterre, au XVIIIe siècle, au moment où les Anglais se chauffent au bois, font de la sidérurgie au bois, elle consommait... 3,6 millions de stères de bois, 3,6 millions de mètres cubes de bois. Une stère de bois, c'est 2/3 de tonnes de bois, quoi. Donc en fait, mettons, on va dire 2 millions de tonnes de bois versus 10 millions de tonnes de bois. L'Angleterre consomme 5 fois plus de bois maintenant pour faire de l'énergie qu'elle le faisait au XVIIIe siècle. Drôle de transition énergétique. Même pour le pays très innovant, etc. Comme soi-disant le bois, ça absorbe le CO2 quand ça pousse un arbre, c'est neutre en carbone. Et donc, ils ont récupéré plein de subventions, par 2 milliards d'euros, hein, pour faire ça. Évidemment, c'est un désastre environnemental, parce que c'est pas du tout bon pour les forêts d'exporter autant de bois. Là, 10 millions de tonnes de bois, c'est plus que la production anglaise de bois. C'est donc, je vous ai dit, 4-5 fois plus que la production de bois au XVIIIe siècle, donc un beau résultat après deux siècles de transition énergétique. Tout ce bois, ça représente 1,5% de l'énergie britannique. Dans cette centrale-là, l'électricité produite, c'est 1,5% de l'énergie primaire britannique. Ça montre bien le caractère démentiel de cette idée qui est très à la mode, qui est de dire, bon, on a un problème avec les fossiles, on va retourner à la biomasse. C'est juste qu'il n'y a pas du tout les quantités de biomasse nécessaires. Ça ne marche pas du tout. On ne peut pas faire avec la biomasse ce qu'on a fait avec les fossiles. Il n'y a pas la quantité de biomasse possible. D'accord ? Alors après, j'ai un autre argument à faire valoir sur le fait que ce n'est pas vraiment une transition qui s'est passée. C'est le cas du charbon. Est-ce que le charbon, c'est vraiment du charbon, en fait ? Est-ce que ce mot-là, ce n'est pas une simplification honteuse de ce qu'est vraiment l'énergie du charbon ? En fait, le charbon, c'est énormément de bois. Il faut énormément de bois pour faire du charbon. Pour extraire du charbon en Angleterre entre 1900 et 1960, l'Angleterre consommait entre 3 et 5 millions de mètres cubes de bois par an. L'Angleterre, je vous avais dit, brûlait 3,6 millions de mètres cubes de bois au XVIIIe siècle. Donc uniquement pour extraire du charbon, l'Angleterre consomme plus de bois qu'elle n'en brûlait au XVIIIe siècle. Résultat, ça, vous voyez, c'est une photo du port de Cardiff en Angleterre. C'est le port qui dessert les mines du Pays de Galles, en fait. Et c'est uniquement les étais qui servent donc à boiser les mines du Pays de Galles. C'est d'énormes quantités de bois. Ce bois, pour moitié, il vient de la plantation des Landes, dans le sud-ouest de la France, dans les années 20-30. C'est tellement important pour l'Angleterre qu'il y a même un traité qui est signé de troc dans les années 30 pour sécuriser l'approvisionnement en étais de l'Angleterre. Donc en gros, l'Angleterre s'est engagée à fournir 3 tonnes de charbon pour 2 tonnes d'étais à la France. Pourquoi c'est hyper stratégique ? Parce qu'en fait, sans étais, il n'y a plus de charbon, donc il n'y a plus d'énergie. Et ça avait été un drame pendant la Première Guerre mondiale. À cause de la guerre sous-marine, à cause des U-boats allemands, les Anglais, en fait, sont menacés de plus avoir de charbon, parce qu'ils importaient leur bois. Donc, vous voyez, c'est une drôle de transition énergétique qui fait qu'en fait, l'Angleterre consomme plus de bois uniquement pour produire de l'énergie qu'avant d'avoir fait la transition énergétique. Alors, c'est vrai que c'est du bois d'œuvre. Donc, mes collègues historiens, qui réfléchissent pas trop, à mon avis, des fois, ils disent, ah bah oui, l'Angleterre a fait une transition énergétique, il n'y a plus de bois, le système énergétique anglais. C'est ce que représente ce graphique-là, qui est tiré du livre standard sur la révolution industrielle en Angleterre, l'énergie, où vous avez une représentation d'une transition énergétique, vous voyez le charbon qui explose, c'est la consommation énergétique par habitant des Anglais, du 16e au 19e siècle, un graphique qu'on retrouve dans toute l'historiographie. La consommation de charbon explose, c'est le gris clair, et puis la consommation de bois, vous voyez, elle diminue, et elle est à zéro en 1850. Et donc le récit habituel, c'est de dire, bah, vous voyez, c'est une transition énergétique. En fait, pas du tout, parce que là, ils ont simplement pris le bois de feu. Alors, c'est vrai que les Anglais n'utilisent quasiment plus de bois de feu. C'est un peu comme ce que vous disiez à Paris, on n'utilise quasiment plus de bois de feu de nos jours, quoi. Mais en fait, le mode de vie anglais en 1900, il dépend massivement du bois. Parce que sans bois, il n'y a pas d'industrialisation. Sans bois, il n'y a pas de charbon, donc il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'acier. Voilà. Le bois n'est pas du tout secondaire dans le système énergétique des pays industriels au XXe siècle. Et ça, c'est vrai pour tous les gros pays industriels, en fait. Tous les gros pays charbonniers consomment de plus en plus de bois pour extraire du charbon. Vous avez devant vous les consommations de bois de mine, donc pour extraire le charbon. Il y a un cas impressionnant, vous voyez que ça croît encore au XXe siècle. Le cas le plus spectaculaire, c'est l'URSS, qui dans les années 1960 consomme 25 millions de mètres cubes de bois d'œuvre. C'est beaucoup plus que toute la production forestière à l'époque, hein, de bois. C'est du bois qui vient de Russie centrale, qui sert à boiser les mines d'Ukraine. Et dans les années 50, il y a un canal qui est inauguré, qui permet justement de relier la Volga au Don, et donc d'amener tout ce bois de Russie centrale en Ukraine. Et c'est présenté dans la propagande soviétique comme vraiment le symbole de la fraternité entre les peuples ukrainiens et les peuples russes. C'est justement cette possibilité d'avoir ces échanges croisés de bois et de charbon. Donc vraiment, quand on dit charbon, il faut penser bois. Ça, c'est vraiment le point de départ primordial. En gros, le bois croît énormément avec le charbon. Pour une raison assez simple, c'est que le charbon, ça dope l'industrie, donc on a besoin de plus en plus d'emballages. Au départ, c'est des caisses et des tonneaux. Et puis, le bois est aussi indispensable pour les chemins de fer. Les chemins de fer, on aurait dû appeler ça des chemins de bois, ça consomme plus de bois que de fer. 6 fois plus de bois que de fer, parce qu'il faut tout le temps changer les traverses, qui pourrissent. D'accord ? Avant qu'on les traite à la créosote, c'est un produit chimique bien dégoûtant qui vient d'ailleurs du charbon, de la distillation du charbon. Donc vraiment, bois et charbon, ça fonctionne ensemble. Il ne faut pas les penser en opposition. C'est vraiment ça, je crois, que le problème de base, c'est qu'on a tendance à penser les choses en compétition, dans une vision, en fait, darwinienne, des techniques. Mais pour les matières, ça ne marche pas. Donc, cette démonstration, on peut la faire pour les autres énergies. Ça marche très bien aussi. Par exemple, charbon et pétrole. Est-ce qu'il y a une transition du charbon au pétrole? Vous avez compris que non, pas vraiment. Pourquoi? Le pétrole, ça sert à quoi? À faire lancer des voitures, ou des camions. Et les voitures et les camions, on les fabrique dans des usines où on consomme énormément de charbon. Ça, c'est la photo de Ford, l'usine Ford dans les années 50. Il y a un gros tas de charbon, parce que en fait, c'est la première matière première qui rentre dans une voiture, c'est le charbon. Ford avait besoin, à cette époque, de 7 tonnes de charbon pour faire une voiture. Et une voiture, à cette époque, ça consommait en gros 7-8 tonnes de carburant, de pétrole, dans sa durée de vie. Donc, dans les années 30-40, en gros, une voiture, c'est autant une technologie pétrolière que charbonnière. De nos jours, quand on prend les analyses cycle de vie, en Chine, qui est de loin le premier producteur, constructeur mondial de voitures, ils produisent plus d'un tiers des voitures de la planète maintenant, il faut en gros 3 tonnes de charbon pour faire une voiture. Donc, quand vous voyez une voiture, il faut imaginer un gros, gros tas de charbon. C'est du charbon. Et en deuxième, c'est du minerai de fer. Et après, c'est tous ces métaux compliqués dont on parle beaucoup, lithium, cobalt, quand c'est voiture électrique, hein, j'entends, cuivre, surtout d'ailleurs avant, aluminium aussi. Donc, en gros, une voiture, ça stimule le charbon, quoi. Alors c'est sûr, il y a une transition, on passe des bonnes vieilles machines à vapeur qui étaient très inefficaces, on les remplace par des moteurs diesel qui sont beaucoup plus efficaces. Ça a lieu dans l'entre-deux-guerres pour la marine, pour les chemins de fer. Ça marche très très bien, c'est sûr. Il y a une transition au niveau, si vous voulez, du moteur. Mais tous ces bateaux et tous ces chemins de fer et toutes ces voitures, en fait, pour les produire, il a fallu du charbon. Donc il y a une transition technologique, si vous voulez, mais pas une transition vraiment énergétique. Et en fait, ça vaut pour tout. Parce qu'un exemple encore plus évident, c'est le cheval. Il n'y a plus trop de chevaux, à part la garde républicaine, pas très loin d'ici, il n'y a plus trop de chevaux dans Paris. Est-ce que ça veut dire qu'il y a vraiment une transition en dehors de la force musculaire? Non. Il y a de plus en plus d'humains, il y a de plus en plus de bêtes aussi, et on cultive de plus en plus de céréales pour alimenter des bêtes. D'accord? Donc la matière sous-jacente, la biomasse, elle a fait que croître. Je crois que pour réfléchir convenablement à ces questions environnementales et climatiques, il faut arriver à décentrer son regard des quelques exemples de, un peu des historiettes, quoi. C'est, ah bah oui, on a passé la machine à vapeur au moteur diesel, donc il y a une transition, où il n'y a plus de chevaux dans Paris, il n'y a plus que des voitures, donc il y a une transition, et arriver à vraiment penser matière, énergie. Et là, on a une histoire très différente. En France, c'est effectivement, avec le nucléaire, on a sorti le charbon quasiment entièrement du mix électrique. Maintenant, en France, a priori, il y a de l'acier. L'acier, il est fait avec du charbon. Et puis surtout, on importe des biens en France. Je veux dire, notre mode de vie sans importation, c'est impensable. Là, il y a tous ces objets-là, ils sont fabriqués en dehors de chez nous. Et ces objets-là, ils ont été produits avec l'énergie du charbon. Enfin, en partie, pour un tiers. Enfin, c'est le calcul que j'ai fait pour sans transition. Si vous prenez... C'est des estimations, hein, faut pas... Vous prenez les importations françaises, pour produire ça, il a fallu en gros consommer 50 millions de tonnes de charbon. Il faut savoir que la France, à son sommet d'extraction charbonnière en 1963, elle sortait 60-70 millions de tonnes de charbon. Donc c'est moins, c'est pas si loin de son maximum. Donc le mode de vie français, en fait, il est complètement dépendant du charbon. Notre façon, vous voyez, nos voitures, nos téléphones portables, nos ordinateurs, tout ça, ça dépend. Ils sont produits, ils sont faits en Chine, donc made in coal, quoi.
Alors du coup, est-ce que votre thèse, c'est qu'il n'y a absolument jamais... très rarement de transition dans le sens où on passe d'un type d'énergie à un autre,
oui.
Ou que la transition ne se fait pas du tout sur les durées que nous on espère ou qu'on nous vend, oui. Mais qu'elle se fait sur des durées qui sont tellement longues que c'est plus des transitions, c'est...
Bah, oui.
Parce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors voilà, donc en gros, l'argument, les historiens, mes collègues historiens, qui des fois disent, ah oui, Fressot, on savait déjà ce qu'il racontait, on voit qu'ils n'ont rien compris à ce que je raconte, parce qu'ils disent, en fait, Fressot se dit que les transitions, ça prend très longtemps, mais ça, on le savait que ça prenait très longtemps. Non. C'est ça que je dis, c'est je dis que l'idée de transition énergétique est complètement idiote. C'est pas adéquat avec ce qui se passe dans le passé ni maintenant. Donc c'est un mythe, c'est un leurre, c'est un fantôme. On n'arrête pas de parler de transition énergétique, mais on ne sait pas ce que c'est concrètement. On n'en a jamais fait, on n'a aucune idée du temps que ça prend en vérité. Pour l'instant, tout n'a fait absolument que croître et les choses croissent ensemble. Donc pourquoi on parle de transition énergétique? C'est pas la bonne notion. C'est pas une notion rigoureuse, c'est un slogan. On a pris, ce qui me tue, c'est qu'il y a des kilotonnes d'expertise qui sont fondées, en fait, sur un slogan. On a plein de titres, machin chose et la transition énergétique, mais on ne sait pas ce que c'est que cette transition énergétique. Donc c'est ça l'argument, c'est que c'est pas une bonne notion. C'est une notion qui a été inventée pour différentes raisons que je détaille dans la deuxième partie de mon livre, mais c'est pas du tout une bonne notion. Donc c'est pas du tout que ça prend très longtemps. C'est qu'on sait pas combien de temps ça prend, parce qu'on en a jamais fait.
Pourquoi, politiquement, on n'a jamais pris la décision de le faire?
Parce que en fait, qu'on déciderait de le faire, qu'on n'y arriverait pas. On est incapable de sortir du carbone. C'est un mythe complet. C'est n'importe quoi, cette affaire. Rien que la nourriture, c'est un tiers des émissions mondiales. Rien que la nourriture. Enfin, je veux dire, on va pas décarboner la nourriture, c'est pas vrai. Je veux dire, toute notre alimentation dépend des engrais, des machines, etc. On peut réduire, évidemment, on peut réduire les émissions, ça c'est possible. Alors, mangeons moins de viande, principalement. Hein. Si vous voulez être efficace là-dessus, c'est manger moins de viande, surtout moins de bœuf. Ça, c'est radical. Ça marche très très bien. Mais on sera pas à zéro, ce n'est pas vrai. Et ça fait longtemps, en plus, que notre alimentation, elle émet beaucoup. Pendant, en fait, là, je vous ai parlé des mines de charbon au 19e siècle. On s'en fiche complètement des mines de charbon au 19e siècle. C'est pas ça qui émet du CO2 à cette époque. À cette époque, c'est la déforestation, c'est l'élevage. C'est ça qui est important. La conquête de l'Ouest, la déforestation aux États-Unis, ça émet, entre 1850 et 1900, 60 gigatonnes de CO2. Tout le charbon, entre 1850 et 1900, dans le monde entier, c'est 44 gigatonnes de CO2. Donc la conquête de l'Ouest, c'est plus gros que toute l'industrialisation, en termes d'émissions. Et la conquête de l'Ouest, c'est quoi? C'est un truc agricole. Enfin, c'est l'élevage, c'est tout ça, quoi. Vous voyez? Donc on sous-estime drastiquement le rôle de l'agriculture dans cette affaire. Donc quand de nos jours, on dit « Ah ben non, que c'est fou !» En fait, la nourriture représente deux fois plus d'émissions que les voitures, par exemple. Pour alimenter 1,4 milliard de voitures dans le monde, on émet deux fois moins de CO2 que pour alimenter 8 milliards d'humains. Ça peut sembler étrange, mais en fait, dès qu'on regarde ça d'un point de vue historique, on voit que c'est normal. L'agriculture était beaucoup plus massive à l'époque, en 1900 ou en 1950 que maintenant. Il faut attendre 1990 pour que les émissions cumulées, c'est-à-dire la somme de toutes les émissions chaque année, des fossiles dépassent les émissions cumulées de l'agriculture. Vraiment, l'agriculture, c'est majeur. C'est 33% des émissions, et c'est pas comme si on avait des super solutions, quoi. En gros, qu'est-ce qu'on sait décarboner au fond? Où est-ce qu'il y a vraiment des solutions? Il y a un secteur que l'on a tous en tête, c'est ce qu'on a fait en France, c'est l'électricité. L'électricité, on peut en grande partie décarboner. Avec des renouvelables ou avec du nucléaire. Ça, c'est possible. Mais on sait le faire depuis longtemps. On a commencé à faire l'électricité avec des barrages, avec de l'eau. On s'est décarboné d'une certaine manière. Donc là, oui, on peut décarboner. L'électricité, c'est 40% des émissions mondiales. Donc c'est une bonne nouvelle, mais il reste tout le reste, quoi, dont la nourriture. Je sais pas, l'acier, par exemple. Alors, en théorie, on peut décarboner avec de l'hydrogène, etc. Enfin, bon, à chaque fois que...
Il y a une usine suédoise.
Oui, hybride. Ils ont beaucoup. On peut en parler, si vous voulez. Peut-être que les Suédois vont pouvoir faire quelques millions de tonnes hyper d'acier beaucoup plus cher, mais on va pas le faire à l'échelle mondiale. Donc, ils annoncent quelques millions de tonnes d'acier. La production mondiale d'acier, c'est 1,7 milliard de tonnes. Donc, c'est en gros un millier de fois plus que ce que Hybride va annoncer, quoi. C'est sûr, à très long terme, on pourrait imaginer qu'on faisait décarboner l'acier. Moi, je ne suis pas du tout technophobe, c'est pas la question, hein. C'est vraiment pas ça le sujet. Mais, en fait, cette affaire de changement climatique, il y a une sorte de date de péremption. C'est-à-dire, on dit, bah, il faut décarboner l'économie européenne avant 2050 et l'économie mondiale avant 2060-70, pour éviter de dépasser 2-3 degrés. Donc, vous voyez, tout ce qu'on annonce comme, on fera ci, ça en 2050, alors qu'on n'a pas le début du commencement maintenant, c'est du flan, en fait, c'est des mensonges. C'est juste, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux même. Donc après, on peut continuer, il y en a d'autres. L'acier, c'est compliqué. Le ciment. Ah, le ciment, c'est terrible parce qu'en fait, donc le ciment, on fait chauffer très très fort du calcaire pour faire le ciment, enfin le clinker, qui est la base du ciment. Dans cette réaction-là, il y a un CO2 qui part dans l'atmosphère. Le calcaire, c'est CaCO3, vous faites chauffer, il y a un CO2 qui part, ensuite on a CaCO qui est le clinker. Pour récupérer ça, il faut faire ce qu'on appelle la capture du carbone. J'y reviendrai ensuite parce que c'est important pour l'accord de Paris, cette affaire. La capture du carbone, c'est en fait une fumée industrielle, vous les faites passer dans plein de produits chimiques, vous récupérez le CO2 avec un sorbant, et donc ensuite le CO2, vous le liquéfiez, vous l'envoyez sous le sol. Pareil, ça coûte très cher, c'est extrêmement intense en électricité, c'est très polluant en plus, parce que ce sorbant, il est polluant. On va pas le faire, c'est pas vrai. Donc en fait, c'est du blabla, quoi. En plus, où est-ce que la consommation d'acier et de ciment croît beaucoup maintenant? C'est pas en Europe. C'est dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres. Et ces pays pauvres, ils ne vont pas acheter leur acier ou leur ciment 3 ou 4 fois plus cher que nous, on a acheté notre ciment ou notre acier depuis 50 ans, quoi. C'est pas vrai non plus. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de solutions technologiques, mais elles ne vont pas être mises en place. Il faut être clair, quoi, là-dessus. C'est pas vrai. Alors après, il y a l'aviation. L'aviation, sans doute, c'est le plus célèbre, vous savez, sans doute. L'aviation ne sera sans doute jamais décarbonée. On peut parler de plusieurs générations, quoi. Pourquoi? Parce que ce que proposent les communicants d'Airbus, pas les ingénieurs d'Airbus, les communicants d'Airbus, c'est d'utiliser l'hydrogène. Alors, d'hydrogène liquide. Alors, le problème, c'est que l'hydrogène liquide, déjà, il faut le maintenir à moins 253 degrés. À 10 km d'altitude, c'est pas évident. Pour faire ça, il faut des réservoirs bien compacts. Or, les réservoirs de kérosène dans les avions, ils sont où? Ils sont dans les ailes. Donc, ils ont des formes comme ça, quoi. Donc, autant vous dire, vous mettez de la couche d'isolant pour maintenir un truc comme ça à moins 253 degrés, ça marche pas. Donc, en fait, il faut refaire tous les avions, quoi. Et puis, le problème, c'est que ça consomme, enfin, produire j'avais fait des calculs, pour produire sous forme de ces carburants à hydrogène. Les 9 millions de tonnes de kérosène qu'on consomme par an en France, en gros, c'est les 2/3 de la consommation française électrique, c'est la totalité du parc nucléaire. Donc on va installer encore 40 autres réacteurs nucléaires, rien que pour faire notre hydrogène. C'est pas vrai, on va pas le faire non plus. On raconte des cracks, quoi. On nous blablate pendant 10 ans sur, je sais pas moi, les avions à hydrogène, et puis après on va nous blablater sur des avions ioniques ou je ne sais quoi. Mais il y a un moment où il faut arrêter, qu'on arrête de raconter des bêtises. Cet hydrogène natif, quoi. Peut-être que c'est important, j'en sais strictement rien. Mais le temps qu'on refasse toute l'infrastructure mondiale pour qu'on puisse faire fonctionner toutes nos machines à hydrogène et pas au kérosène, sincèrement, les 25 ans avant les deadlines de l'accord de Paris seront passés, c'est sûr, quoi. Ouais. Faut arrêter cette course en avant d'annonces qui mènent un peu nulle part, quand même, mine de rien. De nos jours, l'hydrogène est un vecteur énergétique. C'est nul, en fait. Il n'y a quasiment rien qui fonctionne à l'hydrogène. Il y a 3 taxis de luxe en Paris qui fonctionnent à l'hydrogène. Ça n'a aucun sens. Enfin, là, on raconte ça.
On dit souvent la sobriété, ça apporte pas grand-chose. Si la technique, c'est censé pas trop marcher, ou en tout cas pas tout de suite, ça veut dire que nos leviers...
Ça veut dire déjà que le changement climatique va avoir lieu. On aura les 3 degrés qu'on annonce depuis longtemps, on les aura plein pot. Voilà, donc ne rêvons pas. Déjà, je crois que c'est le premier truc sérieux à dire, en fait, là-dessus. Deuxième chose, là où il y a des solutions technologiques, genre l'électricité, ben, il faut y aller à fond, et c'est scandaleux même qu'on produise encore autant d'électricité, y compris dans les pays riches avec du gaz. Les Pays-Bas, ils ont encore plein d'électricité au gaz, alors qu'ils ont la mer du Nord juste à côté, etc. Enfin, là, il y a des efforts à faire, il y a des gains à faire. L'Allemagne aussi, c'est pas normal. Vraiment, il y a des gains importants encore à avoir là-dessus. Là, il faut y aller à fond. Après, il ne faut pas rêver non plus. C'est-à-dire, avec des renouvelables, il y aura besoin d'un peu de gaz en backup quand même. Et en Chine, on construit encore des centrales thermiques, alors au charbon, elles sont super modernes, super efficaces, etc. Parce que mais ça, ils savent très bien qu'ils les feront tourner qu'en backup d'un système qui sera largement dominé par les renouvelables. En gros, en ce moment, c'est 60% charbon, 40% renouvelable, et ils estiment qu'en 2050, ça sera l'inverse. Ça sera 60% renouvelable, 40%, peut-être 30% charbon et gaz. Voilà. J'ai envie de dire, là où c'est vraiment possible, ben, il faut y aller à fond. Sur les autres trucs, bah oui, il faudrait parler sobriété beaucoup plus, quoi. Moi, ce qui m'embête de transition énergétique, c'est qu'en fait, ça évite de poser ces questions-là. Ça sert à ça, au fond. Parce qu'à un moment, vous disiez politiquement, en fait, politiquement, c'est hyper pratique, la transition énergétique. Parce que ça permet, en gros, de continuer. Exactement comme avant, en disant, il y a quelques brillants ingénieurs qui vont nous tirer d'affaire, mais c'est hyper infantilisant. C'est même pas une question d'être pessimiste ou... Ça, c'est les analyses prospectives, en gros la futurologie officielle de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Voilà comment ils voient l'évolution du mix énergétique mondial d'ici 2050. Le pétrole stagne, le charbon diminue. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est grâce principalement au solaire en Chine qu'on peut faire diminuer un petit peu la consommation de charbon. Il faut savoir que la Chine consomme la moitié du charbon mondial. Donc c'est sûr que s'il se passe des choses en Chine, ça a des effets à l'échelle mondiale. Et il se passe des choses. Et puis le gaz, lui, va continuer de croître un petit peu. Est-ce qu'on appelle ça une transition énergétique ? Je ne suis pas très convaincu que ce soit le bon terme, quoi. C'est une diminution d'intensité carbone de l'économie. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que là, entre 2020 et 2050, l'économie aura beaucoup cru. Donc on aura gagné en efficacité. Mais on n'aura pas fait une transition énergétique. Ce qui n'est pas surprenant. Parce que vraiment, cette affaire de transition énergétique, c'était du grand n'importe quoi, en fait. Comment on a pu parler de ça sérieusement, et puis comment autant d'experts ont pu écrire autant de papiers sur la transition énergétique alors qu'ils parlaient d'un fantôme, quoi. Mais c'est ça qui me semble troublant, quoi.
Et le statut du nucléaire dans tout ça ? Parce qu'on parle de décarbonation, mais le nucléaire, c'est quand même problématique.
Ah, le nucléaire pose d'autres problèmes, une fois encore. Oui, c'est pas une pétition de principe anti-nucléaire, mais évidemment que le nucléaire pose d'autres problèmes. C'est pas du changement climatique, mais ça pose plein d'autres problèmes. Les déchets à stocker jusqu'à la fin des temps... Des risques d'accident, mine de rien, il y en a quand même eu 2 très sérieux en 40 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas négligeable, quoi. Oui, il y a des risques du nucléaire, bien sûr. Puis ça coûte très cher, le nucléaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça va pas avoir un rôle très important dans les 50 prochaines années. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de construire des usines, des centrales nucléaires dans le monde. Il y a les Coréens, les Américains, les Français, les Russes, les Chinois. Même EDF, là, quand Macron a dit on va relancer le nucléaire. EDF a dit « Ok, d'accord, mais nous, on ne peut pas en construire plus que 6 ou 7, je crois, avant, je sais plus, 2040, un truc comme ça. » C'est compliqué. Bon, on voit Flamanville, ils ont mis 20 ans pour en sortir une. Et ça coûte très cher, donc on ne va pas non plus avoir des déploiements massifs du nucléaire dans les pays pauvres. C'est pas vrai, quoi. Enfin, ça n'a pas de réalisme, quoi. La différence du solaire. Le solaire, c'est simple, c'est pas cher, vous branchez votre truc, au Pakistan, un pays très pauvre, un fort développement du solaire avec des panneaux bon marché importés de Chine. Après, c'est pas zéro CO2. Quand vous regardez un peu précisément ce qui se passe dans les pays pauvres, vous avez une croissance à la fois du solaire, mais aussi des générateurs diesel. Quand il fait nuit et qu'il fait pas beau, etc., bah, mettre un petit coup de générateur diesel, c'est plus simple qu'avoir des grosses batteries qui coûtent cher, quoi. Donc vraiment, ce qu'on appelle les mini-grids, en Afrique subsaharienne en particulier, en fait, c'est le déploiement du solaire, mais aussi des générateurs diesel. On n'a jamais vendu autant de générateurs diesel que maintenant. Est-ce que ça, c'est pessimiste? Non, c'est analyser les phénomènes tels qu'ils se passent, quoi. C'est être empirique, c'est être descriptif, c'est pas fantasmer sur le monde rêvé d'une sortie du carbone, quoi, qui aura pas lieu. Le problème, c'est qu'une fois encore, parce qu'on a eu cette expertise de la transition énergétique, on n'a pas la discussion politique qu'il faudrait sur le changement climatique. C'est ça la question, parce que là, en France, qu'est-ce que la seule discussion qu'il y a, c'est entre nucléaire et renouvelable, qui est une discussion pas très intéressante. On a déjà décarboné l'électricité, donc c'est pas fondamental. La moitié des émissions françaises, c'est nos importations. Entre autres, les 50 millions de tonnes de charbon dont je vous parlais, là, qui sont dans les importations. Est-ce que sur le climat, on parle vraiment de notre politique commerciale? Un petit peu. À un moment, il y avait des lois pour interdire, enfin, pour éviter la déforestation, pour éviter d'importer des carburants à base d'huile de palme fait en Indonésie. Tant qu'à faire, c'est une grosse bêtise. Ça, vraiment mieux éviter. Vaut mieux brûler du pétrole, hein, que faire ça. Donc, voilà, il y a ce genre de choses, mais c'est pas majeur, quoi. Mais en fait, si on veut vraiment réduire les émissions, il faut regarder la balance commerciale, éviter d'importer trop de choses d'Asie, etc., où il y a beaucoup de charbon. Enfin, c'est ça qu'il faudrait faire.
Et la sobriété.
Et la sobriété, bien sûr, la sobriété. Claire, si on réduit les importations, la sobriété, ça suit très vite. L'essentiel des biens qu'on consomme et nos biens d'équipement, c'est les trucs importés. Et puis aussi la question de la répartition. Parce qu'en fait, le problème de transition énergétique, ça fait croire que dans 25 ans, on aura déconnecté notre économie du carbone et donc du climat. Et à partir de là, bah, ça peut croître autant qu'on veut. Et donc, on va résoudre les problèmes de pauvreté avec la croissance du gâteau, quoi. Si on part de l'hypothèse qui est beaucoup plus réaliste, qu'en 2050, il y aura encore plein de carbone dans l'économie, et que notre croissance économique, elle continuera encore d'être indexée avec du carbone. Ben alors la question de... On arrête de faire croître le gâteau, même on le fait un peu diminuer, et il faut répartir les biens, ça devient une question politique importante. On est obligé de la poser davantage clairement, quoi. Transition énergétique, ça a plein d'effets, en fait, néfastes sur le débat climatique. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, le seul effet positif, c'est de gargariser l'optimisme technologique sur les renouvelables. Moi, ce que je trouve bien, les renouvelables, c'est très bien. Quand je dis les renouvelables, c'est très bien, je dis un truc un peu simpliste. Parce qu'en fait, les renouvelables, c'est usé pour faire plein de choses pas terribles, dont extraire du pétrole. Ce qui est vraiment mort sur les émissions de CO2, c'est des trucs simples et pas chers. C'est le vélo, c'est les panneaux solaires pas chers. C'est ça qui est mort sur les émissions de CO2. C'est pas les trucs high-tech et coûteux, quoi. Dans 300 ans, peut-être qu'on aura un monde fabuleux avec des réacteurs à fusion nucléaire merveilleux et l'hydrogène. Je sais pas si c'est un monde fabuleux, mais en tout cas, on peut imaginer ça. Mais 300 ans, ça sera trop tard. Vous voyez ce que je veux dire?
Quand je vous lis dans le journal, donc je lis des fois votre chronique, là, je suis très, très étonné que vous n'arrêtiez pas de sourire. Je m'attendais à voir quelqu'un de désespéré.
Pas du tout.
Mais
non.
Je trouve quand même que vous n'êtes pas très confiant dans la technologie.
Sans doute
que la plupart de nous, on est beaucoup trop confiants.
Moi je suis admiratif des progrès technologiques.
Mais moi aussi je me dis, si on ne raisonne toujours qu'à... je suis d'accord avec vous sur le... Enfin, je vous écoute volontiers sur quand on dit qu'à court terme, les technologies actuelles, elles ne semblent pas, que ce soit l'hydrogène, que ce soit le nucléaire, elles ne semblent pas en mesure de répondre aux enjeux. Mais si on raisonne toujours à court terme... On ne crée rien de... Enfin, beaucoup des technologies qui ont été créées ont été améliorées sur des périodes de temps qui sont... Par exemple, je ne sais pas, entre l'automobile d'il y a 150 ans et l'automobile d'aujourd'hui, je pense que... en tout cas, si on prend...
La Ford T faisait du 8 litres au 100.
Ah oui, d'accord.
Intéressant, hein, ouais. Là, nos voitures, bon, elles sont mieux, hein. Les voitures, elles sont beaucoup plus confortables, beaucoup plus puissantes, machin, mais elles font quand même du 4-5 litres au 100, quoi. Donc, vous voyez, c'est... Il y a du progrès, hein, je dis bien. Mais c'est incrémental, ça va doucement. Enfin, c'est. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que, contrairement à peut-être l'impression que mes chroniques donnent, enfin, je suis historien des techniques, je sais à quel point les techniques ont énormément progressé, surtout dans ce domaine-là. Il y a déjà eu d'énormes progrès technologiques. Pensez à l'électricité. L'électrification. Dans les années 20-30, les industriels mettent au rebut les machines à vapeur et les remplacent par des moteurs électriques. C'est prodigieux, ça divise par 10 l'intensité carbone de la force électrique. De nos jours, quand on remplace une centrale à gaz par un panneau solaire, on divise par 10 l'intensité carbone de l'électricité. Ce que j'ai par là, c'est que le progrès technologique, il y en a déjà eu énormément. On n'est pas au bord d'un précipice incroyable qui fait que d'un coup, tout va changer dans le monde énergétique, quoi. On vit dans la suite des progrès technologiques du passé. Une sorte de continuité de ça, si vous voulez. Je pense que dans un siècle, on aura encore besoin de pétrole, de gaz et de charbon, oui. Ouais. Ne serait-ce que pour se nourrir une fois de plus, enfin, c'est quand même important de se nourrir. Autant on peut se passer d'avion, même de voiture, autant se passer de voiture, c'est plus compliqué.
Justement, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est quand même l'histoire de nourriture.
Oui.
Liée à la démographie.
Oui.
Comment on fait ?
Alors, c'est pas que la démographie. Hein. Oui, non, mais la démographie joue un rôle important, ça fait aucun doute. On est passé de 1 milliard à 8 milliards d'habitants entre 1800 et 2020. Donc ça, c'est sûr, ça a un effet majeur, faut pas non plus se leurrer. Mais c'est un facteur secondaire par rapport à la croissance économique, au mode de vie, etc. Sur l'alimentation, la moitié des céréales qu'on produit, donc la moitié des espaces qu'on artificialise, ça sert à nourrir le bétail. Donc là, on peut quand même réduire. Mais ce que je veux dire, c'est que les Américains doivent consommer, je ne sais plus, 130 kilos de viande par an et par habitant. C'est-à-dire deux fois leur poids en viande, quand même, par an. C'est beaucoup. Enfin, alors qu'en Europe, enfin, en France, on doit être à 70, je crois, un truc comme ça. Enfin, on mange quasiment deux fois moins de viande, quand même. Mais c'est pareil, quoi. Enfin, oui, la démographie fait partie de la question. Il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Surtout que, pendant longtemps, enfin, l'argument démographique, c'était un argument, on dit néo-malthusien, en gros, c'était les pays riches qui voulaient contrôler la population des pays pauvres. Longtemps, c'est ça. Même si la Chine voulait contrôler sa propre population, l'Inde voulait contrôler sa propre population, c'est souvent passé de manière assez désagréable avec des problèmes de stérilisation forcée. Enfin bon. Donc c'est pas très joli. De nos jours, c'est l'inverse. Bizarrement, la droite réactionnaire est devenue nataliste. Anti-avortement, faut faire plein d'enfants pour la patrie, le réarmement démographique maintenant, on entend parler. Vous voyez ? Donc non, il faut aussi questionner ce genre d'injonction à avoir une croissance démographique. Avec en fait une sorte d'angoisse sur l'immigration, en fait, c'est ça le fond de l'affaire. Hein. Il faut aussi parler de démographie de manière scientifique. Après, ce que disent les démographes, c'est que ce qui s'est passé, ce qui est efficace, c'est l'éducation des femmes et l'autonomie des femmes. Et ça, ça réduit drastiquement. Là, on parle de transition démographique, c'est ça le moteur. Quoi. Et c'est pas les politiques de stérilisation, etc., qui ont été efficaces. Quoi. L'Inde, ça croît encore, mais là où il y a une forte croissance démographique, c'est en Afrique subsaharienne. Or, c'est des pays qui émettent très peu et qui ont émis très peu. Donc, en fait, quand on dit c'est la démographie, d'un coup, les regards se tournent vers le groupe de pays qui a très peu contribué au réchauffement climatique. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu fort de café, quoi. Parce que je veux dire, le problème, c'est la croissance démographique dans les pays riches. C'est ça le problème. Mais c'est vrai que ça pose plein de questions. Bah, par exemple, la croissance démographique américaine liée à l'immigration d'Amérique du Sud, oui, c'est un facteur de croissance des émissions, c'est sûr. Vous avez des gens qui émettaient très peu, qui vont dans un pays où on émet beaucoup plus, c'est sûr. Mais une fois encore, voilà, ça fait partie des choses dont il faut qu'on discute, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois encore, c'est beaucoup plus simple de réduire, je sais pas, le transport aérien que réduire la démographie. C'est plus simple de réduire les vacances en Thaïlande que le nombre d'enfants par femme... plus démocratique, plus je sais pas comment dire quoi, plus. Alors, ce qui se passe en Chine, c'est intéressant. C'est, à mon avis, on est très loin de la neutralité carbone en 2060, comme l'a promis Xi Jinping en 2010, enfin pendant le Covid là. Enfin, il est rentré dans le même blabla que les Européens ont fait depuis 2015. Mais ce qui se passe en Chine, c'est impressionnant. Par exemple, un truc moi qui m'a beaucoup surpris, la consommation de pétrole chinoise commence à plafonner avec le développement de la voiture électrique. Mais pas que ça, grâce à l'énorme croissance du réseau TGV. En 20 ans, ils ont construit les trois quarts des lignes TGV existantes sur la planète. Les trois quarts des lignes TGV, c'est en Chine, dans le monde. Ils ont fait ça en 20 ans, et ça a réduit le trafic aérien, déjà, quoi. Alors après, une fois encore, c'est très loin d'une transition énergétique, parce qu'ils ouvrent encore des centrales à charbon, si le gaz se met à coûter très cher, parce que le gaz peut se substituer au charbon en partie, hein, c'est du chaud. Si le gaz se met à coûter très cher, ils vont exploiter plus de charbon. C'est ce qui est en train de se passer dans plein de pays en ce moment, avec le détroit d'Hormuz. J'ai plein de collègues, et c'est très troublant, des collègues démocrates, etc., qui en gros sont devenus complètement pro-chinois, parce que c'est vrai que c'est impressionnant, surtout comparé aux États-Unis, qui n'ont même pas été fichus de faire une ligne TGV en Californie, quoi, ce qui est quand même ahurissant quand on y réfléchit. Bon. Est-ce que c'est si incroyable que ça? En fait, quand on regarde, par exemple, la rapidité de la construction du réseau TGV en Espagne, rapport au nombre d'habitants, c'est assez proche, en fait. C'est-à-dire, les Européens... en fait, c'est un phénomène de rattrapage économique qui est assez classique. Pensez à ce que c'est que la France en 1950 et ce que c'est que la France en 1970, c'est deux pays qui sont complètement différents, en fait. Métamorphose complète. En 1950, il y a encore des chevaux qui tirent des charrues en France. Hein. C'est ça, la France des années 50, c'est un pays très pauvre, en fait. Et la France des 70, c'est un pays développé. Bon, ben, les Chinois ont fait la même chose avec les technologies contemporaines. Donc, c'est plus high-tech parce que j'utilise les meilleures technologies, tout comme les Français utilisaient les meilleures technologies disponibles dans les années 60. Mais ce que je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire, en fait. C'est un phénomène assez classique de développement et de rattrapage économique. Alors, évidemment, vu la taille énorme de la Chine, forcément, c'est plus gros que ce qui se passe en France et c'est plus spectaculaire, mais au fond, c'est assez classique d'un point de vue d'histoire économique et d'histoire technique, quoi. C'est pas si révolutionnaire.
Et dans cette perspective de rapide...
C'est marrant parce que les Européens voient la Chine comme le futur parce qu'ils ont plein de voitures électriques. En fait, quand vous regardez les documents chinois, ils voient l'Europe comme leur futur. En disant, en 2050, il faudrait qu'on ait la même intensité carbone que l'Europe. Plutôt efficace, sinon, pour transformer du carbone en PNB, quoi. Comparé aux États-Unis ou à la Russie, ce genre de pays. Vous avez encore une partie de la population mondiale qui est encore en pleine phase de développement, et ça, ça émet du CO2, voilà, pour, massivement, quoi. Après, la question, c'est, ce développement-là, autant qu'il se fasse le plus possible vers des formes, déjà, je vous ai dit, les États-Unis, c'est deux fois plus par habitant de CO2 que les Européens. Déjà, c'est tout bête, mais sans faire cocorico, ce serait mieux d'imiter les pays européens développés que les États-Unis. Que le modèle, ça soit pas forcément la grosse baraque de 200 mètres carrés avec deux ou trois voitures, quoi. Faut mieux éviter ce modèle-là. Faut mieux que ce soit des petits appartements de Parisiens de 60 mètres carrés, sans voiture, quoi. Voilà. Avec finalement une qualité de vie, et bon, alors, c'est sûr, on nage pas dans l'abondance, comme plein d'Américains, mais voilà, on est en bonne santé, en meilleure santé que les Américains, d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi on s'est tous mis à parler de transition énergétique, quand même? Parce que la moitié du livre, c'est ça.
Oui. L'origine du
mot. Du mythe, exactement. Alors, bon. Donc là, c'est plus typiquement ma casquette histoire des sciences. Donc c'est, en gros, j'ai lu un peu tous les rapports qui avaient existé sur le futur de l'énergie, quand est-ce qu'on se met à parler de transition énergétique. Alors, première remarque, c'est tard. Pendant longtemps, on envisage le futur de l'énergie comme ça. Donc ça, c'est une prospective faite par un promoteur du solaire américain dans les années 70. Comme vous pouvez le voir, pour lui, tout va croître. Le charbon va croître, le nucléaire va croître, le solaire va croître, il y a de la place pour tout le monde. Le futur n'est pas vu comme un présent radicalement différent, pas comme une sorte de vaste transition, plutôt comme un présent agrandi. Alors, il y a un groupe de scientifiques qui se met à penser le futur de l'énergie différemment, ce sont les savants atomistes américains, qui sont tous passés par le projet Manhattan. Et ils se mettent à parler de transition énergétique, parce qu'ils recyclent un terme de physique nucléaire. Transition énergétique, au départ, ça vient de la physique nucléaire. Ça désigne le changement d'état d'un électron autour de son noyau, et ce monsieur-là, Russell Brown, va employer ce terme-là pour parler du futur de l'énergie. Mais c'est un futur très lointain. En gros, l'argument, c'est de dire il y aura une transition énergétique à très long terme, parce qu'on arrivera au bout des fossiles. Vous avez devant vous un graphique qui a fait cogiter énormément de monde depuis qu'il a été produit. Vous connaissez sans doute Marion King Hubbert, c'est le théoricien du pic pétrolier. Vous avez tous entendu parler du pic pétrolier. Donc il s'est fabuleusement trompé. Hein. Regardez sa vision sur le pétrole en haut. C'est le pétrole aux États-Unis. Pour lui, en 2020, il n'y a quasiment plus de pétrole aux États-Unis. Manque de chance, les États-Unis produisent deux fois plus de pétrole maintenant qu'en précédent pic des années 70. Bon, bref, peu importe. Et vous avez en bas une représentation, ça c'est toutes les énergies fossiles, qui forment un petit pic. Pourquoi? Parce que vous regardez l'échelle des abscisses, c'est sur 10 000 ans. Pour garder l'histoire humaine sur 10 000 ans, c'est sûr, tous les fossiles, ça va aller assez vite, finalement. À l'inverse du nucléaire, qui permet d'accéder à un plateau énergétique sans fin, parce qu'il y a tellement d'énergie dans l'uranium. Donc c'est ce rêve-là, en fait. Ça vient de là, la transition énergétique. C'est une sorte d'angoisse de l'épuisement des fossiles, et puis la perspective d'un futur énergétique sans fin lié à l'énergie atomique. Au fond, ces personnes-là, Harrison Bone, c'est très clair, c'est des gens qui sont un petit peu coupables de ce qu'ils ont inventé, qui a détruit, qui a rasé deux villes japonaises, et qui, à cette époque, on imagine que ça risque d'être l'apocalypse, en fait, hein, concrètement. On est encore un peu comme maintenant, j'ai envie de dire, mais on est en pleine guerre froide, quoi. Hein. Donc on a peur que ça soit une guerre, la troisième guerre mondiale nucléaire. C'est de dire, en fait, si on évite la guerre nucléaire, et qu'on développe, alors c'est pas le réacteur nucléaire tel qu'on les connaît maintenant, c'est le surgénérateur nucléaire, c'est Super Phoenix, en France. C'est un réacteur qui permet de brûler les deux isotopes d'uranium, et ça donne, c'est pour ça que ça permet de faire fonctionner des réacteurs sur des milliers et des milliers d'années. Si on arrive à développer le surgénérateur nucléaire, alors en fait, le nucléaire, c'est finalement la clé de la survie de l'humanité. C'est la seule chose qui permet de faire durer notre civilisation industrielle. C'est des savants atomistes qui réfléchissent à 1000 ans, quoi. Pour le climat, c'est en décennies qu'il faut réfléchir. Et donc, ça va vous soulever exactement le lièvre. On a recyclé ce discours-là pour réfléchir à la question du changement climatique. Alors que c'était pas du tout adapté, en fait. Alors pourquoi on a fait ça? C'est à cause de la décennie 70 et de la crise énergétique. Faut savoir que dans la décennie 70, donc à la fois il y a la crise énergétique, et donc le terme de transition énergétique se diffuse et devient commun comme solution à la crise énergétique. Mais à cette époque, transition énergétique, quand Carter en parle, par exemple, ça peut dire plus de charbon. parce que ça va résoudre le problème de la souveraineté énergétique américaine. En gros, l'OPEP, les Arabes et tout, ils nous emmerdent. Nous, on va faire du charbon. Ça va permettre de remplacer le pétrole moyen-oriental. C'est ça, en gros, la transition énergétique à l'époque. Et du nucléaire aussi. Certains disent du solaire. Mais le problème, c'est que c'est dans cette décennie 70, il y a à la fois la crise énergétique et le début de la discussion sur le changement climatique. Et en fait, ce sont les mêmes experts qui vont passer du discours de la crise énergétique au discours du changement climatique. En gros, les premiers économistes du climat, c'était des économistes de l'énergie qui avaient travaillé sur la crise énergétique. Et ils vont reprendre leur même théorie, leur même modèle pour réfléchir à la crise climatique. Je parle des gens qui réfléchissent aux solutions. Il faut savoir que ce monsieur, Harrison Brown, en 1952, il est déjà en train de travailler sur le changement climatique. La question du changement climatique émerge aux États-Unis dès le milieu des années 50, grâce aux promoteurs de l'atome. Ce que je veux dire par là, c'est que les premiers à étudier sérieusement de manière nouvelle le changement climatique, c'était des gens en fait qui voulaient vendre du nucléaire. Ils avaient très bien compris que le changement climatique était un très bon argument pour défendre le nucléaire. Puis il y a une autre raison, plus scientifique et plus légitime, c'est que pendant le projet Manhattan, on fait progresser un dispositif qui s'appelle le spectrographe de masse, qui permet d'isoler des isotopes d'une même matière. Et ces spectrographes de masse gagnent énormément en précision, et ça permet d'étudier de manière beaucoup plus fine les isotopes de carbone 14 et d'oxygène 18, qui sont un marqueur très important pour étudier le cycle du carbone. Toutes les paléodatations, ça vient de là, en fait, ça vient de ce dispositif. Et le ratio oxygène 16 et oxygène 18, ça permet de connaître la température à laquelle la glace s'est formée et qu'on retrouve dans les carottes glaciaires. Donc c'est très important pour la paléoclimatologie. Donc en gros, ils ont des dispositifs nouveaux qui leur permettent d'étudier de manière, enfin, de faire des choses assez excitantes, scientifiquement, j'ai envie de dire, sur la question du changement climatique. Donc pour ces deux raisons, en fait, vous prenez les premiers papiers sur le changement climatique dans les années 50, c'est des papiers qui sont écrits par des savants atomistes ou qui sont financés par l'Atomic Energy Commission, la grande institution qui finance le nucléaire. Donc je vous disais, c'est les mêmes économistes. Par exemple, le cas de William Nordhaus est vraiment clair. Vous connaissez peut-être William Nordhaus, prix Nobel d'économie en 2018 pour ses travaux sur le changement climatique. C'est le premier économiste à faire de l'économie du climat, en fait. En 1973, il écrit un papier sur la crise énergétique. Le pétrole se met à coûter cher. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'économiser? A priori, oui. Non, si le pétrole est rare et cher, on se dit on va essayer de réduire la consommation. Mais ça, c'est que vous n'êtes pas un bon économiste, parce que si vous étiez un bon économiste, vous sauriez qu'il faut le sortir maintenant, tant qu'il vaut cher. Parce qu'il se pourrait, et même il est probable, que dans 20 ans ou 30 ans, on ait le surgénérateur nucléaire, qui permette de faire de l'hydrogène, et de rendre obsolète le pétrole. Donc ce serait quand même ballot de s'être privé du pétrole quand il valait très cher, dans les années 70, si en 2000, on a le super surgénérateur nucléaire et l'hydrogène qui rend obsolète le pétrole. Donc ça, c'est son argument en 1973. 2 ans plus tard, il écrit le tout premier article d'un économiste donc sur le changement climatique, et il tient le même raisonnement. Il dit, il y a de l'effet de serre, est-ce que ça veut dire qu'il faut serrer la ceinture? Pas du tout, ce sera tellement plus facile de faire la transition énergétique plus tard, quand on aura le surgénérateur nucléaire ou d'autres technologies décarbonées. Quoi. Donc la transition énergétique, au départ, en fait, c'est un truc qui justifie la procrastination, théoriquement, dans la théorie économique. La théorie de l'effet de serre, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Fourier, alors il n'emploie pas le terme, mais il comprend que l'atmosphère joue un rôle clé dans la température planétaire. Et là, on est en 1820. Ensuite, dans les années 1860, on comprend que le CO2 a un rôle particulier dans l'effet de serre. Fin 19e siècle, on a des calculs qui disent, ben voilà, on aurait 2 fois plus de CO2 dans l'atmosphère, on aurait plus 3 ou plus 4 degrés. Des estimations relativement justes. 1895, c'est Arrhenius. En 1936, on a Gary Stuart Callendar, un ingénieur britannique, qui fait un papier qui dit, bah, regardez les températures quand même, les observatoires astronomiques mesurent les températures depuis longtemps, donc on a des séries thermométriques continues. Parce qu'en fait, pour faire de l'astronomie de position, on a besoin de connaître la température de l'atmosphère, ça change le coefficient de réfraction de l'atmosphère. Il dit, bah, vous voyez, les températures dans les observatoires augmentent, et ça va un petit peu parallèlement à nos émissions de consommation de charbon. Peut-être qu'il y a un lien, et c'est l'effet de serre. Ça, c'est en 1936. Mais à ce moment-là, on s'en réjouit. On dit, bah, c'est bien, ça va éviter le prochain âge de glace. En plus, les plantes croîtront plus vite. Lui, en plus, Arrhenius, c'est un Suédois, donc il dit, s'il fait plus chaud en Suède, a priori, plutôt pas mal. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les savants atomistes qui opèrent ce renversement. À partir des années 50, ça devient grave. Il y a des risques. Un climat plus chaud, bah, c'est des mers qui montent. Donc, c'est des côtes qui vont être noyées. C'est des dérèglements. Bah, on a une agriculture qui est organisée pour un tel climat. Ça va changer, ça va poser plein de problèmes. Donc, dans les années 50, voilà, il y a déjà des travaux importants faits sur le changement climatique. Pensez à la taxe carbone. De nos jours, la taxe carbone, qu'est-ce que ça fait? L'idée, c'est de dire, vous la faites augmenter peu à peu. pour que peu à peu, le pétrole et le gaz coûtent plus cher, et comme ça, on s'adapte, tous les acteurs économiques vont s'adapter, ils vont acheter des voitures électriques, les industriels vont innover pour développer des choses décarbonées, parce que ça la rendra plus compétitive, blablabla, patati patata. Qu'est-ce que ça fait la taxe carbone? En fait, ça simule dans l'économie l'effet de la raréfaction factice, si vous voulez, des fossiles. Donc c'est un outil qui est directement inspiré de la théorie économique des années 70, et de la réfutation, quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, le rapport au Club de Rome. Le rapport halte à la croissance. En 72, hein, c'est la même époque que Nordhaus. C'était de dire, la réfutation du rapport de limite à la croissance, c'est de dire, mais en fait, la raréfaction des ressources, c'est pas un problème. Quand les ressources sont plus rares, elles deviennent plus chères. Donc soit on trouve des substituts, soit on innove pour avoir besoin de moins consommer de cette ressource. Et donc finalement, l'économie gère la raréfaction des ressources. Donc il n'y aura pas d'effondrement à cause de la raréfaction des ressources. Cette idée que les prix augmentent et l'innovation suit, truc de base, finalement, dans l'économie des 70 sur la crise énergétique, eh ben, on le reprend avec la taxe carbone. C'est exactement ça. Mais on le fait de manière artificielle, parce qu'on sait bien qu'il y a plein de fossiles, donc il faut artificiellement, si vous voulez, augmenter le prix des fossiles. Je sais pas si je suis clair. Mais ça, c'est intéressant, ça montre qu'en fait, la taxe carbone, en fait, c'est un outil qui hérite des années 70, quoi, qui hérite de ce débat sur la crise énergétique. Alors, la transition énergétique, ça plaît énormément à l'industrie pétrolière. Quand on commence à parler de changement climatique, fin des années 70, début des années 80, l'industrie pétrolière n'est pas climato-sceptique. Exxon fait des très bons travaux sur le changement climatique, par contre elle est transitionniste. En disant, oui, il y a un problème de changement climatique, mais bon, tout le monde sait qu'on est en train de faire une transition énergétique. Alors ça, c'est un discours que ce monsieur-là tient, là, avec les lunettes, là. C'est le chef de la R&D d'Exxon, l'ancien conseiller scientifique de Nixon, l'ancien directeur des Bell Labs. Les Bell Labs, c'est vraiment un labo fondamental où on invente le transistor, enfin, c'est un lieu important, quoi, technologiquement. Donc c'est un laboratoire de l'entreprise Bell, quoi. Et Edward David, il est invité par des climatologues à ce moment-là, il dit, bah oui, effectivement, il y a un problème de changement climatique, mais la question intéressante, c'est qu'est-ce qui arrivera plus vite, la transition énergétique ou la catastrophe climatique? Et ça, c'est très astucieux de présenter la chose comme ça, parce que la date de la catastrophe climatique, elle est lointaine pour les climatologues. À cette époque, on dit, donc on est dans les 70, le changement climatique, il sera sensible en l'an 2000, il aura des conséquences économiques en 2020, sur l'agriculture, le tourisme, et il sera catastrophique en 2070. Et quand on dit ça en 1970, 2070, ça paraît de la science-fiction, et la suite de l'article, c'est de dire, bah, il va de soi qu'on aura eu le temps de faire une transition énergétique entre-temps. Donc en fait, Edward David, il joue là-dessus, il joue de ça, quoi. Il dit, bah, on aura le temps de faire une transition, on a en gros un siècle. Il dit même, tout le monde sait que ça met 50 ans pour faire une transition énergétique. En fait, personne ne sait combien de temps ça met, quoi. On voit que la transition énergétique a joué ce rôle-là, en fait, ben, ça nous a enfumé, ça nous a désinhibé, c'est pour faire le lien avec l'apocalypse joyeuse, quoi. C'est un peu le même genre de processus. On a un problème avec le climat, mais on passe outre, en fait. On invente des dispositifs idéologiques, fondamentalement. C'est un dispositif idéologique, la transition énergétique. Pour continuer exactement comme avant. Avec un peu plus de panneaux solaires et d'éoliennes, c'est pas la question, mais globalement, l'économie est la même, quoi. Et puis, la transition énergétique, ça plaît beaucoup au gouvernement. Alors là, je tombais sur des archives assez intéressantes et un peu compromettantes sur la création du GIEC. De nos jours, le GIEC, c'est le paladin du climat. C'est vraiment l'institution de référence, etc. Quand on regarde les sources, on se dit, ouais, c'est un peu différent. Quand le GIEC est créé en 1988, il y avait déjà un groupe d'experts. C'était simple et pas cher. C'était 6 ou 7 climatologues qui étaient réunis dans un groupe qui s'appelait Advisory Group on Greenhouse Gases. Il était sous l'égide du PNUE, enfin le programme des Nations Unies pour l'environnement, et de l'Organisation Météorologique Mondiale. Alors eux, c'est très simple, ils disent, oui, il y a un problème de changement climatique, pas besoin de faire plus de recherches, on sait que c'est vrai, enfin, c'est la vieille science, c'est pas ça la question. Tous vos modèles super perfectionnés, c'est peut-être très utile, mais au fond, on sait qu'il faut agir. Et ils proposent de réduire de 25% les émissions avant l'an 2000. C'est repris dans une conférence qui a lieu à Toronto en 1988, il y a déjà des chefs de gouvernement. La déclaration finale, c'est de dire, voilà, il faut réduire de 20. Alors, ils disent finalement en 2005, ils se donnent 5 ans de plus. 25% de réduction d'émissions en 2005. Alors, quand les Américains entendent parler de ça, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? On ne va pas laisser quelques bureaucrates de l'ONU et une poignée de climatologues défoyés à des ONG nous dicter notre politique énergétique. Ça revient à ça, en fait. Donc, on va faire un nouveau groupe d'experts. Beaucoup plus gros, beaucoup plus sérieux, qui sera intergouvernemental. La lettre importante dans GIEC, c'est le I pour intergouvernemental, c'est pas international, intergouvernemental. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui nomme les experts. Et donc, dans les archives, c'est très clair, il faut, enfin, les archives américaines disent, il faut que le GIEC reflète nos intérêts nationaux. Et pour ça, il faut que les gouvernements de tous les autres pays nomment des experts, pas simplement... Il ne faut pas que ce soit le ministère de l'Environnement qui nomme ses experts, ou le ministère de la Recherche scientifique qui nomme des experts. Il faut que ce soit le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, puis tant qu'à faire aussi des firmes énergétiques, des gens qui connaissent un peu le sujet, quoi. Donc des pétroliers. C'est pour ça que dans le groupe 3 du GIEC, il y a plein d'employés des industries pétrolières. C'est troublant, mais c'est important de le savoir. Et alors, pendant longtemps, j'ai cru que ça n'avait pas eu d'importance ou trop d'importance. Dans la première version du livre, je n'avais pas traité ça comme il faut. Et depuis, j'ai travaillé. En fait, ça a eu une très grande importance. Le fait qu'il y ait autant de pétroliers au sein du GIEC. Alors, ils sont minoritaires, hein, mais ils ont réussi à faire passer l'idée saugrenue qu'on allait faire de la capture de carbone. Vous avez devant vous, c'est dans la dernière version en poche du livre, il y a le tableau, sinon c'est dans un article que j'ai publié en septembre dernier. Vous prenez les 6 rapports du GIEC depuis 92, du groupe 3 du GIEC, hein, celui qui s'occupe toujours des solutions, les économies, etc. Et de quoi ça parle, au fond? Ça parle quasiment que de technologie. Je reviens sur la capture de carbone, c'est le nœud de l'affaire, hein, de cet article. Cet article, c'est essentiellement l'histoire de la capture du carbone. Pourquoi, d'un seul coup, on se met à parler de capture du carbone, alors qu'on ne sait pas vraiment bien faire la capture du carbone? Enfin, c'est devenu une technologie essentielle pour arrêter le changement climatique de nos jours dans les modèles. Donc, une fois encore, vous voyez ce que c'est. Vous faites de l'électricité avec du charbon, mettons, et vous rajoutez à la centrale électrique un dispositif qui va récupérer le CO2 qui sort des cheminées, et ce CO2, vous liquéfiez, vous l'enfouissez sous le sol. C'est ça. Alors, c'est inspiré de la désulfurisation du charbon. Vous savez que dans le charbon, il y a du soufre, et pour éviter les puits acides, on récupère le SO2. Hein. Sauf que du soufre, dans le charbon, il y en a une fraction infime. Il y a moins d'1% de soufre, même moins encore, dans le charbon. Le carbone, bah, c'est tout le charbon. Donc en fait, le charbon que vous avez gazéifié, il faut le resolidifier ou le liquéfier et l'envoyer sous le sol. C'est un petit problème thermodynamique déjà. Alors avec quelle énergie on va faire ça? Alors évidemment, maintenant que le solaire est pas cher, on dit on s'en fout, l'électricité, on en a autant qu'on veut. Le problème, c'est que pour une centrale thermique au charbon, toutes les 2 centrales thermiques au charbon font une 3e centrale thermique au charbon uniquement pour alimenter en électricité l'unité qui capte le CO2 à la sortie des cheminées. Donc le rendement, bam, il s'effondre, quoi. Alors tout le monde trouvait ça ridicule, et ça l'est, dans les années 90, dans les années 2000. En 2001, c'est ce rapport-là du GIEC. Ils sont pas encore pro-capture du carbone. Et ils disent, en fait, ça rend l'électricité au charbon plus cher que le nucléaire. Quel est l'intérêt? Autant directement faire de l'électricité nucléaire plutôt qu'aller s'embêter à brûler du charbon pour ensuite récupérer le CO2. D'accord? C'est vraiment les shadocks. Et ils ont entièrement raison. Alors, ça, c'est l'avis général de tous les experts. Et je pense qu'on comprend pourquoi ça marche pas, quoi. Et que c'est même vraiment absurde, en fait. Alors, c'est l'avis des experts. Sauf que, depuis les années 90, l'industrie fossile pousse la capture du carbone. Parce que c'est une manière de garder leurs actifs. Et de faire croire qu'ils vont se décarboner sans changer de business model. D'accord? Et donc, ils créent des revues, ils créent des conférences, etc. sur la capture du carbone. En 2005, en 2001, le gouvernement américain, canadien et norvégien demande au GIEC d'écrire un rapport sur la capture du carbone. Et ce rapport de 2005 change la doctrine générale sur la capture du carbone. D'un seul coup, ça devient potentiellement vachement intéressant, une innovation verte en devenir. Et à partir de là, il y a une explosion scientifique autour de la capture et du stockage du carbone. Mais vous voyez que là, le groupe 3 du GIEC a joué un rôle intéressant, c'est qu'ils ont rendu, ils ont donné une sorte de cachet scientifique à un truc qui était très clairement orienté, quoi. Qui venait vraiment d'un lobby, c'était très net et très clair, quoi. Alors, la capture du carbone à la sortie des cheminées, déjà c'est étrange, mais là, le groupe 3 du GIEC va inventer quelque chose d'encore plus étrange. C'est ce qu'on appelle la bioénergie avec capture et stockage du carbone. Vous vous souvenez de la centrale thermique de Drax, qui brûlait du bois? Imaginez que sur cette centrale, vous mettez un dispositif de capture du carbone. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'arbre croît, il capture du CO2. Vous le brûlez pour faire de l'électricité. Le CO2 émis pour la production d'électricité, vous le capturez, vous l'enfouissez sous le sol. Là, vous avez fait un truc génial, vous avez fait des émissions négatives. C'est-à-dire que vous avez récupéré du CO2 de l'atmosphère qui a été pompé par l'arbre pendant sa croissance et vous l'avez enfoui sous le sol. Et ce faisant, en plus, vous avez produit de l'électricité. Hein, c'est le beurre et l'argent du beurre. Bon, évidemment, ce truc-là n'a aucun sens à plein d'égards. Le problème, c'est que les modèles qui sont utilisés pour minimiser le coût de la décarbonation, donc dans les travaux qui sont synthétisés par le groupe 3 du GIEC, ils adorent ça. Parce que vous faites de l'électricité, vous avez des émissions négatives et vous dites que dans le futur, on arrivera à améliorer tout ça pour que ça coûte pas très cher. Et donc, dans le rapport de 2014 du groupe 3 du GIEC, la BEX, la bioénergie avec capture et stockage du carbone, devenait le premier puits de carbone au monde. 10 gigatonnes de CO2 par an absorbées dans leur... Il y a tout un éventail de scénarios, 10 gigatonnes, c'est la moyenne. Pour les pires, c'était à 20 gigatonnes de CO2 en émissions négatives. Pour faire ça, on utilise du bois. La production mondiale de bois, c'est 4 milliards de mètres cubes. Donc pour absorber 10 gigatonnes de CO2 avec du bois, il faut déjà tripler, quadrupler la production mondiale de bois. Mais avec quelle forêt? C'est grotesque. Et d'ailleurs, ça a été tout de suite dénoncé. Plein de scientifiques ont dit « Non mais ce machin-là n'a aucun sens ». Il y a même un consortium d'Académie européenne des sciences qui a écrit une lettre en disant « On ne peut pas tolérer ça, c'est n'importe quoi ». 2022, ils remettent ça sur la table. Alors, ils ont un peu réduit la voilure, mais il y en a encore énormément. Donc, au bout d'un moment, cette persévérance devient étrange quand même. Tout ça ne serait pas grave si ça restait, je veux dire, des gens qui faisaient leur rapport dans leur coin. Ce ne serait pas grave. Le problème, c'est qu'on est... Donc le rapport de 2014 dit « On peut atteindre la neutralité carbone grâce à l'ABEX, donc on peut limiter le changement climatique à 2 degrés. » Et l'année d'après, on a la signature de l'accord de Paris, qui était fondée en fait sur une fausse promesse, sur une promesse vide, sur une technologie qui n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, c'est normal, c'était fondé sur du... c'était du vent en fait. Alors, les gens qui ont poussé ces technologies-là, évidemment, ils se rendent bien compte que c'est un peu n'importe quoi, ils sont pas idiots, mais en fait leur argument c'est de dire « Ah bah oui, mais c'était pour rendre les gouvernements ambitieux. » Si vous voulez, c'est un truc un peu ambigu, ils ont poussé une technologie qui au départ est en fait une parade de l'industrie fossile, ils l'ont poussée... C'est pas forcément avec mauvaise intention, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire, on va dire que c'est possible, et comme ça les gouvernements signent, et puis après on verra bien, quoi. Je sais pas si c'est de bonne politique, et je crois pas que ce soit le rôle des scientifiques que de faire ça, quoi. Je vais m'arrêter là-dessus. Bon, en tout cas, merci pour les questions, les interpellations, ça rend la chose beaucoup plus dynamique et sympathique qu'une présentation bonne et due forme.
Merci beaucoup.